sors de l'intérieur. Motive ton corps. Anime ton âme. Va voir le monde. Bouge, va-t'en, va.
La radio dans le pédalo.
Ton seul contact avec l'extérieur en solitaire, c'est la radio, hein, bien entendu.
Avec Karina Kohan.
Je vous ai dit que j'étais désolée pour la tête de canard. Mais bon, persiste à croire que ça nous aurait pris beaucoup plus de temps.
Ça ne prenait pas beaucoup plus de temps.
Sur Radio BLV.
Ce qui est difficile, c'est la partie pédalo, c'est pas la partie canard. La partie canard, c'est un bec, un colvert. Et puis bon, on n'en parle en plus.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la radio, dans le pédalo, le magazine environnement de Radio BLV, comme tous les mercredis de 11h à 12h, sauf apocalypse et vacances bien méritées. Vous êtes avec Karina, votre humble serviteuse. Alors je sais pas si on dit vraiment serviteuse, je pense que oui. Et c'est une serviteuse qui aime en secret vous mettre tout plein d'herbes, de branchages et de feuilles dans les oreilles. Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, et si votre conduit auditif est assez large, on va rajouter des plumes avec Maëlle Lemaire de la LPO, la fameuse Ligue de Protection des
Oiseaux.
Des oiseaux. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Est-ce que tu es bien installée?
Je suis très bien.
Magnifique. Et alors, chaque semaine, les invités de cette émission nous emmènent loin, très loin dans la nature, se balader. On attrape le poste radio, on l'embarque sur notre pédalo, le mode de transport le plus écologique qui soit, et on se casse. Alors Maëlle, est-ce que tu es prête à sauter dans le pédalo?
Oh oui, j'ai bien hâte. Ça mouille un peu.
On est un peu lourde là, je pense. Allons-y, partons. Où est-ce qu'on pourrait aller, par exemple, Maëlle, dans la nature?
Eh bien, en ce moment, on pourrait aller dans le Vercors, pédaler dans le Vercors, dans la neige, parce qu'on peut faire du pédalo sur raquette de neige, peut-être que ça
Absolument.
Peut être possible, ça. Et puis faire des grandes descentes de pédalo dans la neige, ça serait assez
oh,
rigolo.
Oui. Ça me paraît être un super sport d'hiver. Et je te propose que le pédalo devienne volant. Il n'y a pas de raison, on est à la radio, on fait ce qu'on veut. Mm-hmm. Et qu'il atterrisse carrément à l'aéroport de Chabeuil. Tu vois où
oui,
je veux en venir?
Je vois, je pense que nous, Chabeuil, nous avons les locaux de la LPO à Chabeuil.
Absolument.
Donc nous pouvons atterrir dans les locaux de la LPO.
À quoi est-ce que ça ressemble, ces locaux de la LPO?
Alors en ce moment, ils sont un petit peu vides parce qu'on est censé respecter les règles sanitaires et en télétravail. Donc c'est un petit peu vide, mais sinon c'est une joyeuse ambiance de guélurons qui travaillent autour de la nature et qui essayent de la protéger. Et non, c'est une très très belle ambiance dans ces locaux.
Est-ce qu'il y a des posters d'oiseaux un peu partout?
Oui, il y a des posters d'oiseaux, il y a des petites blagues sur les oiseaux que pas tout le monde ne peut comprendre, mais on a ce genre de choses.
Trop bien, on va en parler encore un peu plus, mais d'abord le sommaire. Au programme de 7h, on va donc parler des soldes avec Maëlle de la LPO. Non, c'est pas vrai.
Moi, j'ai dit, oh mince, j'ai pas préparé ce sujet solde, je ne suis pas au courant de ça.
Non, pas du tout. On va parler de nature, on va parler de biodiversité, des oiseaux, mais pas que, avec une playlist de 3 musiques choisies pour l'occasion par Maëlle elle-même. Et à 11h30, on écoutera No Spoil, la chronique de Gabi, jeune prodige du lycée Camille Vernet, qui nous conseille un film écolo chaque mois et un indice pour le film du jour. Est-ce que t'as trouvé Maëlle?
Yves. Alors je pense qu'il s'agit du film avec le petit robot, mais j'ai perdu le nom. Voilà. C'est pas Star Wars, ça je sais.
Voilà, je tairai le nom pour garder un petit peu de suspense. Et à 11h45, nous parlerons biodiversité et histoire de l'univers avec notre cher René, qui nous racontera l'influence de la Lune sur la Terre et sur l'apparition de la vie sur Terre. Et Maëlle, cette fois-ci, ce sera elle qui le challengera elle-même dans le quiz animalier. Autant laisser la place aux pros. On va voir. Alors pour commencer, Maëlle, qui es-tu?
Eh bien, moi, je suis donc je fais partie de l'association, donc la LPO, et je suis éducatrice à l'environnement. Donc, je vais dans les écoles parler un petit peu de nature, essayer de savoir un peu ce que les enfants connaissent déjà sur la nature. Donc, des fois, on a des choses assez rigolotes qui peuvent ressortir. Notamment hier, quelqu'un, un petit enfant qui m'a dit que les chauves-souris mangeaient du fromage. Donc, ça, je ne savais pas. Et j'amène aussi les gens dans la nature, observer les oiseaux, surtout, parce que c'est quand même les animaux qu'on arrive à observer le plus. Et je suis passionnée de nature, donc j'allie vraiment passion et travail. Donc ça, je pense que c'est assez rare, mais c'est vraiment une chance d'allier les deux.
Voilà. Et la LPO, c'est à la base les oiseaux, mais en fait, vous protégez plein d'animaux.
Oui, oui, oui. Alors, c'est souvent le cas. Souvent, on nous dit oui, mais vous êtes que sur les oiseaux. Et non, en fait, on protège toute la biodiversité. Donc, c'est tout ce qui est vivant, que ce soit les animaux ou les végétaux. Donc, souvent, on dit LPO, agir pour la biodiversité. Donc, on rallonge un petit peu notre nom, mais pour vraiment inclure toute la biodiversité. Après, c'est vrai que c'est l'historique du nom, donc on a du mal à changer LPO, puisque les gens connaissent ce sigle d'association. Mais c'est vrai qu'on est souvent relié aux oiseaux. Mais on ne fait pas que les oiseaux.
En même temps, les choses qui protègent les oiseaux protègent sûrement aussi la nature en général.
Oui, exactement. Ça a un impact sur tout le reste.
Et toi-même, tu n'es pas à la base ornithologue ?
Non, moi, j'étais pas. Alors, j'ai toujours aimé les oiseaux, mais j'étais plutôt passionnée par les singes à la base. C'est vrai qu'en France, nous n'avons pas de singes.
Donc, c'est limité.
C'est un peu limité. Donc, j'ai travaillé pas mal sur les singes. Et en rentrant en France, je me suis retournée vers les oiseaux et vers les enfants, qui sont aussi une sorte de singe, on peut dire.
Il y a des similarités.
Voilà,
effectivement. Et cette équipe à Chabeuil, elle ressemble à quoi ? Alors, vous êtes combien ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on est une équipe, on est une quinzaine, donc on a une équipe plutôt animation. Donc, on est quatre en éducation à l'environnement. Et après, on a toute une partie études avec des chargés d'études qui vont faire des inventaires, qui vont compter des chauves-souris dans des grottes, qui vont compter des oiseaux, qui vont travailler avec les agriculteurs pour essayer de rendre les fermes plus propres à l'accueil de la biodiversité. Donc on a vraiment plein de volets comme ça de travail. Et c'est une très très belle ambiance et on est super contentes de travailler tous ensemble.
C'est un beau métier, oui. Ça donne envie. Oui. On t'a déjà entendu sur nos ondes l'année dernière, c'était pendant le confinement, pour parler des conséquences du confinement, du coup, sur la biodiversité. Et est-ce que maintenant, vous avez plus de recul par rapport à ça ?
Alors, pas tout à fait, mais on s'est rendu compte que comme les gens étaient enfermés chez eux, ils se sont beaucoup occupés de leur jardin. Et donc, les tondeuses ont tondu. Et donc, ça a eu des conséquences aussi sur les jardins, parce que les gens se sont mis à arracher les mauvaises herbes, je mets des guillemets entre mauvaises herbes, et à tailler des haies, ou à vraiment à entretenir bien les jardins, ce qui a eu un impact, puisque forcément, on bouleverse un petit peu le jardin. On va tuer aussi, en passant la tondeuse, fréquemment, on va tuer aussi tous les petits insectes qui n'ont pas le temps de faire leur cycle. En taillant les branches, on peut gêner les oiseaux. On a aussi beaucoup de gens qui ont mis les tondeuses automatiques à tourner la nuit, et ça va déranger aussi les petits hérissons qui se font malheureusement tondre par ces robots. Donc ça a eu un impact. Donc c'est vrai que même si à l'extérieur les animaux pouvaient circuler, qu'on a vu plein d'animaux partout dans les villes, et bien à l'intérieur des petits jardins, on a eu un impact un peu négatif quand même sur la faune.
Ouais, et puis finalement, j'imagine que c'est important les petits jardins pour ces animaux, parce qu'ils n'ont pas autant d'endroits que ça pour se réfugier.
Oui, 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 c'est très important. Et du coup, je fais le lien avec les refuges LPO, qui est un programme qui fête ses 100 ans cette année.
Joyeux anniversaire.
Oui. Et donc, ça permet de labelliser des jardins. Et donc, en vous inscrivant sur ça, vous recevez une petite plaquette que vous pouvez afficher sur à la porte d'entrée, comme quoi vous êtes un refuge LPO. Et vous avez un kit nichoir avec plein de petites brochures qui vous expliquent comment rendre votre jardin plus apte à accueillir la biodiversité, en notamment en laissant des espaces d'herbes sauvages qui vont pousser, en mettant des tas de branches, en installant des nichoirs, des gîtes à chauves-souris, enfin tout ce genre de choses qu'on peut faire. Donc là, on a à peu près 35 000 terrains qui sont labellisés, donc ça représente vraiment plein de jardins qui sont des corridors un petit peu pour les espèces et qui sont un peu des refuges de biodiversité. Donc n'hésitez pas, si vous avez même un balcon, une petite terrasse que vous pensez que non, c'est pas un jardin, mais si, vous pouvez quand même labelliser ces espaces-là et les rendre plus verts.
Génial. Donc vous accompagnez les gens aussi à déconstruire l'image esthétique qu'on a du jardin ou du balcon même, avec tout qui est bien rangé, bien propre. Au final, c'est pas ça dont les animaux ont besoin.
Non, c'est vrai qu'on a tendance à, même on le voit dans les villes, à enfermer les arbres, à ce que ce soit bien taillé, ou quand on passe à pelouse, on a les voisins qui vont dire « oh là là, mais ils n'ont pas tondu leur pelouse », enfin, on est très critique sur ce genre de choses, et en fait on se rend compte que c'est très très négatif pour la biodiversité.
Même dans les forêts, j'avais une invitée qui m'avait expliqué que pareil, les forêts étaient souvent nettoyées, et qu'au final les arbres morts étaient enlevés alors que ça représentait la qualité de la forêt, parce que c'était des hébergements provisoires ou pas pour les animaux.
Oui, en fait, ces arbres morts sont des cavités où les oiseaux peuvent nicher. Et donc, quand on pose ces nichoirs, c'est pour compenser la perte de ces habitats-là. Donc, c'est vrai qu'en laissant ces arbres morts, on n'aurait pas besoin de compenser tout ça.
Voilà, restons un petit peu sales quand même, ne nettoyons pas trop. Alors, on va parler un peu de l'actualité environnement dans la suite de cette émission, mais d'abord, je voulais proposer à la première pause musicale et faire écouter à nos auditrices et auditeurs « I Like Birds » de Hills. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson ?
Parce que c'est une chanson que j'ai toujours écoutée dans la voiture en partant en vacances avec mes parents. Et même si je ne comprenais pas du tout les paroles, mais en grandissant, je me suis dit « Ah ouais, en fait, ça me correspond pas mal. » Oui, donc j'aime beaucoup cette chanson.
I can't look at the rocket launch, trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down, look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. Small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store, the mean little people are such a bore, but it's alright if you act like a turd, 'cause I like birds.
C'était I Like Birds de Hills sur Radio BLV 93.6. Il est 11h15, quelle ponctualité parfaite pour ce qui arrive.
Sentez comme ça sent le feu de bois. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Ça, c'est une recette du pays. C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année.
C'est quoi, les petits trucs blancs, non?
Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
Je suis végétarien.
Et oui, 11h15, c'est l'heure de l'agenda pour aller rejoindre les bronzés là-haut dans la montagne ou autre. Et donc, bon, l'agenda, comme d'habitude en ce moment, il est malheureusement un peu plus petit que le reste du temps. Mais quand même, j'ai quelques sorties à vous partager. Il y a notamment Roulant en ville à vélo qui organise une sortie. Alors, à confirmer, parce que sur leur site, il y a un point d'interrogation. Mais voilà, c'est possible qu'elle ait lieu. C'est une sortie vélo mollo, sortie intergénérationnelle, qui a lieu aujourd'hui, rendez-vous à 14h au kiosque Péné. Voilà, pensez quand même à vérifier auprès de l'association si c'est bien confirmé. Sinon, il y a la FRAPNA aussi qui organise un atelier territoire, la Drôme au bâtiment Pré. Donc ça aura lieu demain de 13h à 15h dans les locaux de la FRAPNA. Tous les points de rencontre sont organisés là-bas. Sachez que vous pouvez venir dans le respect des règles sanitaires ou alors participer par téléphone. Les deux sont possibles. En gros, le but de cet atelier, c'est de faire un travail avec un collectif pour un autre aménagement du pont Mistral à Valence et Guirand-Grange. Voilà, vous pouvez signaler votre participation directement auprès de la FRAPNA Drôme Nature Environnement. Quelques sorties aussi organisées par le Club Alpin. Merci de continuer d'organiser des sorties. À commencer par demain, Serre Plumée en raquette, donc c'est à 1500 mètres. Au départ de Col de Carry, vers Corps Sud, c'est un tour de 10 km. Vous aurez donc plus d'informations sur le site du Club Alpin, clubalpin.fr, je crois, je vérifierai. Sinon, samedi 23 janvier, initiation raquette à Fondurle. Donc, il y a une sortie pour remise en forme et initiation. Dimanche, cours de skating avec l'ESF. Vous pouvez également participer à ça. Et dimanche encore, initiation raquette au but de neve, sortie de remise en forme et initiation, évolution en pente raide, utilisation de DVA, etc. Donc toutes les infos auprès du Club Alpin de Valence. Et Maëlle, est-ce qu'on a aussi à l'agenda des actus de la LPO par hasard ?
Oui, oui, oui. Alors, nous avons le week-end du 30-31 janvier, le comptage des oiseaux des jardins. Donc, tout le monde est invité à y participer. Alors, comment ça se passe ? Alors déjà, vous avez un site internet qui s'appelle oiseauxdesjardins.fr où vous pouvez créer un compte pour pouvoir mettre toutes les oiseaux que vous avez observés. Donc c'est un site qui est donc c'est un recensement qui est fait avec la LPO et le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc vous allez vous placer soit dans votre jardin, soit dans un endroit public, un parc, un jardin. Donc c'est à vous de choisir. Donc le dimanche ou le samedi ou les deux. Pendant une heure, vous allez compter tous les oiseaux qui vont passer. Et vous allez les identifier. Alors attention, pas de panique.
C'est ça qui fait peur.
Je sais qu'il y en a souvent qui disent « Oulala, mais moi je ne suis pas un expert ». Alors il n'y a pas besoin d'être un expert parce que vous avez des fiches d'identification qui sont faites sur le site Oiseaux des Jardins. Vous pouvez télécharger. Vous pouvez vous faire des petites fiches techniques pour essayer de reconnaître les différents oiseaux. Si vous n'arrivez pas à identifier un oiseau, pas de problème, vous ne le comptez pas, vous ne le répertorierez pas. Mais vous pouvez compter tous ces oiseaux-là. Vous ne comptez que les oiseaux qui sont posés, vous ne comptez pas les oiseaux qui passent, qui survolent de loin, le petit point qu'on n'arrive pas à identifier. Donc ça, il n'y a pas besoin de le compter. Donc c'est pendant une heure. Et ensuite, vous rentrez toutes ces données sur le site oiseauxdesjardins.fr. Donc, pourquoi c'est important de le faire ? En fait, ça nous permet, nous, de recenser un petit peu les espèces les plus communes, celles qu'on arrive le plus à compter. Et au fur et à mesure des années, essayer de faire des bilans un petit peu des espèces les plus présentes en hiver. Donc, il y a un comptage qui est fait en janvier et un comptage en mai, donc pour voir les oiseaux hivernants et ceux qui reviennent au printemps après les migrations. Donc cette année, c'est la 9e année consécutive. Donc les premières années, il y avait à peu près 3000 jardins qui avaient participé. Donc 3000. Et là, l'année dernière, on a passé le cap des 10 000 jardins. Donc on espère que cette année, on va battre encore le record. Donc n'hésitez pas. En plus, avec ces problèmes de couvre-feu et tout ça. Donc on est bien chez soi et on peut regarder par sa fenêtre pour compter ses petits oiseaux.
Ou dans le jardin sur une chaise longue avec une petite couverture.
Exactement, exactement.
Oh, votre record de 10 000, c'est clairement parce qu'on l'a annoncé l'année dernière sur Radio BLV.
Mais bien sûr, merci BLV.
Avec plaisir. Et donc, vous en faites donc au printemps et à l'hiver. Et là, je voulais donc te demander par rapport, on en a parlé au confinement et tout ça. Est-ce que vous avez vu des différences dans les chiffres par rapport aux années précédentes ?
Alors, le bilan de l'année 2020, il n'a pas encore été sorti sur le site oiseau.fr. Vous avez tous les bilans de chaque année, en fait, depuis l'année 2013. Donc, il y a tout un bilan avec le top 3 des oiseaux. L'année dernière, le top 3, c'était le moineau domestique, la maison charbonnière et le pinson des arbres. C'était le trio
Resteront-ils le
top 3 cette année ? Donc, on verra cette année. Et on a souvent aussi le rouge-gorge qui arrive, la mésange bleue. On a vu aussi un impact sur le merle noir, qui a une diminution des populations. Donc à voir au fur et à mesure des années comment ça évolue. Après, vous allez me dire, oui, mais s'il y a plus de jardins chaque année, ça fait plus d'oiseaux comptés. Mais en fait, il y a tout un processus qui est fait pour essayer de ramener que les données soient équivalentes d'année en année, qu'il n'y ait pas plus de données ou moins de données. Il y a aussi un traitement des données, si le protocole n'est pas suivi, s'il y a des données un petit peu erronées, s'il y a des oiseaux qui ne sont pas censés être là, qui ont été comptés. Enfin, vraiment, il y a tout un travail du Muséum d'Histoire Naturelle et de la LPO pour essayer de rendre ces bilans les plus exhaustifs possibles, pour avoir vraiment un espèce de bilan de chaque année, voir les espèces et quel impact on peut avoir aussi sur elles.
Oui, justement, je voulais te demander quelles sont les tendances, parce qu'on entend partout parler de la disparition de plein d'oiseaux, plein même d'oiseaux qu'on connaît bien et qu'on avait pourtant l'habitude de voir en masse un peu partout. Est-ce que ça se concrétise justement dans vos chiffres, ou est-ce que vous avez aussi des bonnes nouvelles de certaines espèces dont on pourrait fêter la survie?
Alors là, en tête, moi, j'ai que des mauvaises nouvelles.
Ah, non,
je suis désolée, c'est pas... Mais c'est vrai qu'on a vu en fait une diminution des espèces, notamment qui était liée à l'agriculture, parce qu'on a beaucoup d'utilisation de pesticides qui vont tuer beaucoup d'insectes, et donc ça va limiter la nourriture pour ces oiseaux. Notamment ces dernières années, on a noté une diminution de 80% des insectes. Donc c'est énorme, et si on a ces chiffres qui continuent à diminuer, en fait les oiseaux n'auront plus de nourriture. Et c'est tout ce réseau trophique, donc c'est tous ces oiseaux, tous ces animaux connectés toutes ces chaînes alimentaires qui s'écroulent un petit peu. Donc on essaye de, on voit que peut-être en agriculture il y a des transitions au bio, on essaye de limiter un petit peu tout ça. Donc il y a un petit peu d'espoir. Après, on a vu aussi que le gouvernement avait relancé les néonicotinoïdes, je vais y arriver. Donc voilà, on a quand même des mauvaises nouvelles qui arrivent, et on espère qu'on va arriver à maintenir ces populations. Mais c'est vrai que c'est quand même pas des super nouvelles.
Oui, parce que en t'entendant parler, je me dis qu'en fait, toi, tu apprends aux enfants, entre autres, aussi aux adultes, mais à reconnaître des oiseaux qui n'existeront plus, en fait, dans quelques années.
Alors, oui, là, c'est un peu triste de dire ça. Mais c'est vrai qu'on a des grosses diminutions d'espèces. Après, on a aussi d'autres espèces qui arrivent, parce que on a des changements climatiques aussi. Alors, je sais qu'il y en a certains qui disent, mais non, mais vous avez vu, il y a de la neige cet hiver. Donc, on ne parle pas de réchauffement. Mais c'est plus compliqué que ça. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais avec ces changements climatiques, on a des vraies répercussions sur les populations. On a des populations qui remontent vers le nord, d'autres qui redescendent vers le sud. Donc on a vraiment des mouvements de population, et on verra par la suite, peut-être dans 10-20 ans, ce que ça va donner.
Qui apparaîtra.
Oui.
Et justement, ici, est-ce que vous voyez des différences sur les territoires en France ? Est-ce qu'il y a des endroits où ça va bien mieux ou mieux que d'autres ?
Alors, j'ai pas d'exemple en tête comme ça. On se rend compte aussi qu'il y a des oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs, qui migrent pour aller chercher de la nourriture. Donc, c'est pas à cause du froid qu'ils vont migrer, c'est vraiment pour chercher de la nourriture, notamment en Afrique. Enfin, nous, ils vont partir en Afrique, on se rend compte que comme il y a des hivers plus doux, on a des espèces qui vont rester, qui vont moins migrer ou moins loin. Bon, là, cette année, c'est vrai que l'hiver est... on a eu de la neige. Donc, c'est vrai que des espèces qui vont rester, il va y avoir un gros coup de froid et qui vont plus trouver de nourriture. Donc, ça va être impactant aussi pour ces espèces-là. Donc, vraiment à voir dans les années à venir ce qui va se passer.
Ouais, c'est impressionnant que déjà, ils modifient en fait leurs habitudes complètement, à décider de ne pas partir du tout, quoi.
Oui, mais s'ils ont les ressources alimentaires, ouais. C'est vrai qu'ils vont plutôt avoir tendance à rester... sur le territoire, pour éviter un long voyage un peu épuisant et très dur.
Ça se tient. Et pour continuer justement sur le climat, il y a une actualité qui fait un peu froid dans le dos. Bon, continuons dans cette ambiance, malheureusement. En fait, tous les services météorologiques du monde ont décidé de recalculer leur normale de saison. Comme les normales ont changé, en fait, partout à cause du réchauffement climatique, une opération de mise à jour est nécessaire pour recalculer ces normales sur la base de la période actuelle. Donc, en fait, actuelle, c'est de 1991 à 2020. Et quelques chiffres pour vraiment comprendre cette évolution. Sachez que le climat actuel de Paris correspond déjà à celui de Bordeaux dans les années 70. Et le climat actuel de Strasbourg correspond à celui de Lyon dans les années 70. Donc, je trouve que ça permet quand même de réaliser l'écart des changements. Et l'année 2020 est l'année la plus chaude jamais recensée en France et dans le monde. Et alors que pourtant, on a eu la chance d'avoir un phénomène météorologique qui refroidit le climat. Cette année-là, c'était la Niña, contrairement à El Niño qui a l'effet inverse. Sachez aussi que depuis 1900, la température moyenne de la France est déjà réchauffée de 1,7 degré. Et le 14 janvier dernier, l'ONU a carrément émis une alerte mondiale climat en disant que le monde se dirigeait vers un réchauffement climatique catastrophique au XXIe siècle. Et selon l'OMM, les caractéristiques remarquables de cette année 2020, donc la chaleur persistante, les feux de forêt en Sibérie, la faible étendue de la banquise arctique et une saison record pour les ouragans dans l'Atlantique, risquent de devenir une habitude, voire s'intensifier au cours de la prochaine décennie, surtout si les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine se poursuivent au rythme actuel. Donc pour cette information climat, les choses continuent à s'empirer malheureusement. Et rappelons quand même qu'au même moment, le président Trump a publié un article qui remettait en cause le changement climatique sans l'aval de la Maison Blanche, donc on en est encore là, et que le président Macron, on en a parlé la semaine dernière, continue son détricotage de la loi climat en diluant dans un vide un peu sidéral les 150 propositions qu'avaient faites les citoyens de la Convention pour le climat. Et il propose maintenant de parler de la protection de l'environnement et du climat dans la Constitution, mais à voir. À voir ce que ça donne quand on suit les mesures qu'il propose. Pour le moment, c'est pas tout à fait convaincant. Et Maëlle, je voulais te demander justement cette influence du climat, quel rôle elle a sur la vie des oiseaux et des autres espèces que vous suivez.
En parlant du global sur les changements climatiques, des espèces animales, notamment les oiseaux, peuvent un petit peu bouger en fonction de ces changements-là. Mais on a, par exemple, les espèces végétales qui, elles, ne peuvent pas bouger. Et donc, on a une influence. En fait, on se rend compte que le réchauffement climatique, comment expliquer, que ça monte de 30 cm par an, en fait, qu'on a un décalage de 30 cm par an des remontées. Je ne sais pas si je suis très, très claire.
Au niveau des températures.
Voilà, en fait, ça va remonter. Et notamment, la végétation, c'est un changement très, très brutal. Et elles ne peuvent pas s'adapter. Elles ne sont pas faites pour ça. Donc, les espèces animales peuvent encore se déplacer, essayer de changer de territoire, mais pas la végétation. On a aussi des mouvements d'espèces. On a notamment, par la semaine dernière, la LPO PACA qui a annoncé qu'ils avaient trouvé un chacal doré dans les Bouches-du-Rhône. Wow. Donc, il y a eu une photo. Donc, c'est un piège photo qui a été posé sur un tunnel qui passait sous une autoroute, donc un passage pour la faune sauvage. Et on a la photo d'un chacal doré. Donc, si vous voulez aller voir sur le site de la LPO PACA, voir à quoi ça ressemble. Donc, on a ces mouvements d'espèces. Donc, c'est une espèce qui vient des Balkans, qui a remonté.
Wow.
On en avait déjà vu, était déjà observé il y a 2 ans en Haute-Savoie. Et là, Bouches-du-Rhône, donc peut-être une nouvelle espèce Pour la France.
Tout se mélange.
Oui.
Et en même temps, comment est-ce que... Je pense aux oiseaux en ce moment parce qu'il est vraiment froid et qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Comment est-ce que ils vont tenir cet hiver? Est-ce que ça sera particulièrement difficile? Je ne sais pas. Ou l'été prochain avec les vagues de chaleur, comment ça se passe pour eux?
Alors, ils arrivent. Hein, on a forcément un petit peu de perte, mais ils arrivent à trouver de la nourriture. Après, ce que vous pouvez faire aussi chez vous, c'est installer une mangeoire et leur donner des graines. Alors attention, pas n'importe quelle graine, puisque les oiseaux sont exigeants. Donc on va préférer des graines locales et bio. Après, vous pouvez leur donner aussi du beurre de cacahuète non sucré. Et surtout, éviter le pain, parce que souvent, on me dit oh, « on va donner du pain aux oiseaux », mais non, on évite de donner du pain, parce que ça leur fait plus de mal que de bien. Et vous pouvez les alimenter comme ça tout l'hiver et arrêter progressivement jusqu'au mois de mars, au retour du printemps. Et en été, par les fortes chaleurs, c'est bien aussi de les hydrater, parce qu'ils ont du mal à trouver de l'eau. Donc pensez à voilà pendant l'été à leur mettre une petite coupelle d'eau, c'est toujours bien pour eux.
Ah super, ça fait du bien de pouvoir faire un petit quelque chose et pour se radoucir un petit peu et se faire du bien, on va donc diffuser ta deuxième musique, Silbo de Féloche. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique là?
Alors je la trouve très poétique avec ses sifflements d'oiseaux et Elle fait voyager. On peut partir très très loin avec cette chanson.
Laissons-nous envoûter alors.
On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria, pour protéger son île, el silbo, pour braver la guardia civile. Wawa escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio. Thank you.
fait du bien, ce bruit d'oiseau. Vous êtes toujours sur Radio BLV 93.6 et c'était Féloche, Silbo. Puis maintenant, on est un chouïa en retard, mais ça va être l'heure de...
Pour son dernier long-métrage tant attendu, le metteur en scène Jacques Bouillon a fait appel à Raoul pour le rôle principal.
Oh, c'est un véritable chef-d'œuvre, n'est-ce pas ? C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique.
Oui, mais moi je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique. Oui,
c'est-à-dire ?
Bah, c'est juste avant la crise de 29, quoi. Oui.
On écoute la chronique film de Gabi, la chronique No Spoil.
Salut à tous ! Bon alors, ce nouvel an raciste, ça vous a plu ? Ça fait quoi d'essayer de se rassurer en se disant que cette année sera moins pire que celle d'avant ? Vous avez pris vos résolutions ? Non, je sais pas, moi, par exemple, respecter le couvre-feu, mettre son masque sur son nez et pas juste sur la bouche. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de Tenet. Et c'était vraiment... Oui, Karina ? Le rapport avec l'écologie ? Si, tu sais, si. Bah si, parce que, si, tu sais, à un moment, il y a une plante et qui... Bon, ok, j'ai compris. Alors, sur l'écologie, j'ai quoi, moi ? Ah, j'ai un dessin animé. Attends, laisse-moi finir, Karina. On va parler d'un Pixar que vous connaissez sûrement. Préparez-vous, parce qu'on va parler de Wall-E.
Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there.
Wall-E est donc un film oscarisé produit par les studios Pixar en 2008. Il a été réalisé par Andrew Stanton, désolé pour l'accent, connu notamment pour le monde de Nemo, et la musique est composée par Thomas Newman. Mais ça, on en reparlera plus tard. Wall-E, c'est l'histoire de la Terre 700 ans plus tard, après que les humains l'aient bien polluée. Mais vraiment bien, quoi. Dans le film, c'est montré par le fait que les tas d'ordures soient plus grands que les gratte-ciel. Vous la sentez, l'hyperbole ? Bref, toute la population humaine se réfugie donc dans un énorme vaisseau spatial, ne laissant sur Terre qu'un petit robot nettoyeur, muet tout mignon, du nom de Wall-E. Si, il est mignon. Bah si. Sa vie sera bouleversée quand il rencontrera Eve, une robot, du coup, chargée de chercher des nouveaux signes de vie sur Terre. Tel un adolescent, il tombe amoureux direct et essaye de la conquérir coûte que coûte. Par exemple, il lui montre sa collection d'objets récupérés comme un Rubik's Cube, une plaquette de papier bulle et plein d'autres. Malgré ses tentatives de séduction aussi ratées que les miennes, le petit robot ne se laisse pas abattre et continue d'essayer de l'impressionner. Mais là vous vous dites, comment je pourrais m'attacher à un robot ? Eh bien, merci d'avoir posé cette question. Figurez-vous que ce robot a plus d'émotions que vous ne le pensez. Par exemple, quand Eve est rapatriée sur le vaisseau spatial après qu'elle ait trouvé une plante dans la maison de Wall-E, celui-ci est triste et part donc à sa recherche en s'aventurant dans chaque recoin du vaisseau, animé par son envie de la retrouver et par sa curiosité. Alors, c'est qui le robot maintenant, hein ? Mais non, pas vous, je sais. Alors, on parlait de la musique et on va en reparler parce que ce compositeur et cette BO méritent qu'on s'arrête dessus. Petit rappel rapide, Thomas Newman est très peu connu, mais pourtant c'est l'auteur de musique de plein de films que vous connaissez sûrement, comme par exemple Le Monde de Nemo, Skyfall, American Beauty, La Ligne Verte, 1917 et plein d'autres. Je pourrais vous faire écouter toutes les musiques de ces films parce que je les trouve géniales, mais on y sera encore demain. Bah attends, on n'a qu'à faire ça, non ? Ok, je vois Karina qui me fusille du regard, donc on va avancer. Pour les thèmes musicaux de Wall-E, on a pour commencer le thème principal que je trouve juste magnifique. Quelque chose que j'adore dans ce thème, mais vraiment, c'est l'utilisation de la reverb. Alors, reverb, c'est juste le terme musical qu'on utilise en musique pour parler de résonance. Voilà, donc vous pourrez frimer en soirée grâce à moi, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Je disais donc, cette utilisation de la reverb donne un aspect très flottant, très reposant, voire même apaisant. De plus, j'adore les petits contre-champs qui dansent en harmonie avec le thème principal. Vraiment, je pourrais en parler des heures, donc je vous laisse aller écouter le reste de votre côté. En réécoutant la bande-son, je me suis rendu compte que Thomas Newman avait réussi un coup de maître. Est-ce que vous reconnaissez cette mélodie ? Eh oui, c'est bien La Vie en Rose d'Edith Piaf. Et par qui est-ce qu'elle est jouée ? Si je vous dis trompette ? Non, pas Ibrahim Malouf ? L'autre, le plus connu ? Oui, par le grand Louis Armstrong. Et que ce soit au chant ou à la trompette, je trouve que cette version est bien plus jolie que l'original. Hein. Désolé Edith, on t'aime. Louis Armstrong amène une virtuosité avec sa trompette et une belle douceur grâce à sa voix que je trouve inégligeable. Ça se dit pas ? Bah je m'en fiche, c'est trop beau.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast.
Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'adore Thomas Newman. Pour en revenir au film, quand j'ai écrit cette chronique, je suis retombé sur des bouts du film et j'ai vraiment dû perdre au moins une heure à aller d'extrait en extrait. J'ai passé toute cette heure à me replonger dans mes plus grands souvenirs d'enfance, comprenant enfin le message écologique que je ne voyais pas étant petit. Vraiment, ce film me touche autant qu'il me fait rire. Je trouve le scénario vraiment bien, le jeu entre le muet et la musique très beau, et bien évidemment le message aussi impactant qu'un uppercut de Mike Tyson en plein menton. Ce film arrive à nous attacher à un vieux robot tout délabré, sans le moindre dialogue venant de sa part. Croyez-moi, quand on ressort de la salle de cinéma, on relativise bien moins sur l'avenir de la Terre. D'ailleurs, attendez, j'ai un appel. Yeah, Greta, yeah, how are you doing? Yeah, I was just talking about Wally. Yeah. You want that on le montre à our president? Ah, yeah, I think it is a good plan. I do it now. Yeah. What you say? My accent is what?
Merci Gabi pour cette belle chronique sur Wally. On voit l'amour que tu portes à ce film, qui est effectivement un très beau film. Alors Maëlle, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on pourrait un peu parler de toi ?
De moi ?
De toi par exemple, savoir qu'est-ce qui te motive à mettre toute ton énergie dans la protection de l'environnement ?
Et ben, quand on regarde autour de nous cette belle nature, tout ce que la planète nous apporte, moi je trouve ça, moi ça me tord complètement qu'on arrive à détruire tout ce qu'il y a. Et quand je vois ces nouvelles générations qui arrivent, je me dis que c'est important de se battre pour elles et qu'il y a encore plein de choses à sauver, qu'on n'est pas perdu. Donc gardons espoir, on va y arriver.
Merci. Et si tu t'imagines dans un endroit dans la nature où tu te sens en plénitude, où tu te sens bien, où est-ce que tu serais ?
Alors, il y a plusieurs endroits où je me sentirais très très bien, mais dans un endroit complètement coupé de tout humain, très très très, très seul, avec un petit bruit d'eau et des petits oiseaux, et puis plein de petits insectes qui me grimperaient dessus, et puis plein d'animaux autour, plein de bruits de nature, mais pas un seul bruit humain ou d'usine ou de voiture ou de train.
Ce qui est rare. C'est un drôle de choix, les petits insectes qui te grimpent dessus.
Parce que on a tendance à aller les négliger, ces pauvres petites bêtes, et à les maltraiter, à les écraser. En fait, quand on les regarde de près, elles sont toutes mignonnes. Donc pensez à regarder les petites bêtes qui vous entourent.
Ne les oubliez pas, c'est vrai. Oui. Il ne faut pas les prendre pour acquises. Et est-ce qu'enfant, on t'a transmis cet amour pour la nature ?
Alors, c'est assez rigolo, puisque en fait, quand j'étais petite, c'est une animatrice de la LPO qui m'avait fait des séances à l'école autour de la nature. Et je l'avais trouvée incroyable. J'avais trouvé qu'elle nous avait appris plein de choses trop bien. Et on avait fait une sortie en Camargue. Et là, je me suis dit, en fait, c'est trop bien la nature. Enfin, et là, c'est vraiment là qu'il y a eu un déclic. Même si, bien sûr, mes parents étaient dans la nature, mais ils ne s'y connaissaient pas beaucoup. Et à partir de ce moment-là, tout a été déclenché. Donc, merci la LPO.
La boucle est bouclée,
oui.
Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux auditrices ou aux auditeurs, quel qu'il soit ?
Eh bien, pensez à regarder autour de vous, à lever la tête et à juste... là, en ce moment, vous êtes peut-être en télétravail, donc vous avez peut-être un peu de temps à passer dans votre jardin ou en extérieur. Et pensez à regarder autour de vous, parce qu'il y a plein de belles choses. Voilà,
c'est important de le rappeler.
Oui.
Faire une pause pour regarder tout ça. Et au niveau de la LPO, est-ce que vous avez des besoins particuliers ? Est-ce que les auditrices ou auditeurs peuvent vous aider ? Comment vous soutenir ? Comment vous retrouver aussi pour participer à tout ce que vous organisez ?
Alors, nous, on a un site internet LPO Drôme Ardèche, là où vous avez toutes les actualités. Alors, en ce moment, les sorties, malheureusement, grand public, nous n'avons pas les autorisations de les faire. Mais on est bien actifs en général. Vous pouvez retrouver toutes les informations. Si vous voulez participer un petit peu, donc pensez déjà au comptage des oiseaux des jardins. Si vous y connaissez un petit peu en oiseaux, dans les reconnaissances d'animaux en général, vous avez FauneDrôme. Donc vous pouvez créer un compte et puis vous pouvez noter toutes vos observations d'oiseaux. Donc ça nous permet aussi d'avoir plein de données. sur les espèces qu'on peut rencontrer. Et quoi d'autre que je pensais non, on va essayer de... Voilà, suivez-nous sur les actualités LPO. On a pas mal de dossiers de consultation publique sur des arrêtés, que ce soit national ou préfectoral. Donc, vous pouvez aussi agir à votre échelle sur ça. On a toujours aussi besoin de bénévoles. Si vous êtes couturière, si vous savez... Enfin, couturier, je ne veux pas mettre au féminin. ou si vous savez dessiner, ou si vous avez du temps, eh bien, on a toujours besoin de personnes motivées. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails avec vos contacts et avec vos envies si vous avez envie de faire des choses. Et vous pouvez être aussi refuge LPO, je remets aussi ça sur le tapis. Mais pensez-y, c'est un très beau geste aussi que vous pouvez faire.
Voilà. Super, merci Maëlle. Tu restes avec nous. On va écouter la dernière chanson que tu as choisie et puis on retrouvera René pour sa chronique sur l'univers. Cette chanson, c'est Simon & Garfunkel, Sparrow. Est-ce que tu as... Je ne sais pas, une raison aussi pour ce choix.
Sparrow, en anglais, c'est le moineau. Et donc, c'est souvent un petit oiseau qu'on oublie, mais qui est en train, qui disparaît un petit peu des villes. Donc, une petite pensée pour le moineau.
Ooh, a lovely little sparrow. Travel far and cries for rest. Not I, said the oak tree. I won't share my branches with no sparrow's nest. And my blanket of leaves won't warm her cold breast. Ooh. A little sparrow, and who will speak a kindly word? Not I, said the swan. The entire idea is utterly absurd. I'd be laughed at and scorned if the other swans heard. In his heart, and who will feed a starving sparrow? Not I, said the golden wheat. I would if I could, but I cannot, I know. I need all my grain to prosper and grow. Sparrow, will no one write her eulogy? I will, said the earth, for all I've created returns unto me. From dust were ye made, and dust ye shall be.
C'était Simon & Garfunkel, Sparrow, sur Radio BLV 93.6. Et maintenant, nous passons à... à la chronique de René, qui nous raconte l'histoire de l'univers depuis la toute première seconde. Bonjour René.
Bonjour Karina, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Comment vas-tu ?
Ben, très bien, ça va, merci. Et toi ?
Eh bien, très très bien. On est bien installés avec Maëlle.
Oui, j'ai écouté. On parlait beaucoup d'oiseaux. Peut-être que j'en verrai samedi, justement, dans le
Bertrand. Est-ce que tu vas compter, toi aussi ?
Comment ?
Tu vas participer au comptage ? Non.
Ah, samedi, non, je vais randonner, je vais faire de la raquette.
Ah, c'est bien aussi.
Avec des copains.
Donc, la semaine dernière, on en était à la création de la Lune, parce qu'on a découvert qu'en fait, à un moment, la planète Terre n'avait pas de Lune, et qu'elle s'est formée finalement. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'influence de cette Lune.
Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, donc la Lune... On avait dit que on avait parlé de l'incongruité de la présence de la Lune par rapport à la Terre, puisque la Terre est une petite planète et que c'est la seule planète dans le système solaire à avoir un satellite aussi gros que la Lune. Et donc quelles sont les conséquences de cette présence incongrue? Eh bien plusieurs conséquences. Alors premièrement, l'axe de rotation de la Terre, comme je l'avais indiqué, l'axe de rotation de la Terre est aujourd'hui à peu près 23 degrés sur son axe de rotation. S'il n'y avait pas la Lune, l'axe de la Terre varierait beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement. Actuellement, elle varie entre 22 et 25 degrés. Donc, même déjà avec 22 et 25 degrés de latitude, eh bien, donc, il peut y avoir des changements de climat très importants. Hein. Les grandes périodes de glaciation sont sans doute liées à ce phénomène. Et donc, sans la présence de la Lune, ces écarts seraient beaucoup plus importants, ce qui ne remettrait peut-être pas en cause la présence de vie sur la Terre, mais en tout cas, elle n'aurait certainement pas évolué de la même manière. Donc, voilà, donc déjà un point important que la Lune, des conséquences de la Lune. Un autre phénomène important que la Lune a sur la Terre, c'est que, bien sûr, et celui-là, on le voit, nous, on n'est pas au bord de la mer, mais ceux qui sont au bord de la mer le voient chaque jour, c'est le phénomène des marées. Et le phénomène des marées fait que ça laisse sur l'estran, c'est-à-dire la partie qui est entre les hautes et basses mers, ça a créé d'ailleurs des sortes de niches écologiques où la vie cellulaire a pu se développer. Et donc, la vie cellulaire, qui est la base de la vie, est certainement apparue dans cette petite niche écologique liée aux effets de marée dont la cause principale est la Lune. Il n'y a pas que la Lune, il y a le Soleil aussi, mais la Lune étant beaucoup plus proche, c'est quasiment la Lune qui fait que les marées sont aussi importantes, notamment en Bretagne, etc. En Méditerranée, elles sont moins importantes, mais ça, c'est des causes géologiques et non pas de la conséquence de la présence de la Lune. Voilà. Donc, et enfin, une dernière conséquence, mais on en est un peu moins sûr. La Lune jouerait un rôle majeur dans le maintien du champ magnétique terrestre. Et on a vu que le champ magnétique était très important, puisque sans champ magnétique, on serait soumis aux radiations provenant du cosmos et du Soleil, radiations qui quelquefois sont bénéfiques, mais qui peuvent être nocives aussi, puisqu'il y a des rayons gamma, par exemple, ou des rayons ultraviolets, rayons X, qui sont pas très très bons pour la santé, hein, il faut mieux les éviter. Ça nous amène de la chaleur, mais ces rayons-là, dont j'ai parlé juste avant, sont pas très très bons pour la santé. Et donc, le magnétisme de la Terre est quelque chose d'important, et la Lune contribuerait au maintien de ce champ magnétique. Le phénomène est un peu compliqué, mais enfin voilà, les chercheurs sont en train d'étudier ça. Voilà.
D'accord, eh bien, plein de choses que j'ignorais.
Voilà.
Merci René.
Donc la semaine prochaine, eh bien, on verra un peu comment la vie qui a évolué à partir de ces petites niches écologiques où les cellules se sont, les premières cellules se sont formées et elles vont évoluer. Et voilà.
Génial. Tu restes avec nous pour l'animal du jour ?
Bien sûr, bien sûr.
Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles.
Cri d'amour du caribou canadien.
Le yak.
Yak.
Ou sinon, ce qu'on peut faire, on imite un chevreuil.
Maëlle, est-ce que c'est réaliste, ces beaux bruits d'animaux ?
Ah, magnifiquement bien imité. J'ai tout reconnu.
Alors René, je lance le son et c'est Maëlle qui te parlera de l'animal mystère.
D'accord, très bien, mais j'écouterai Maëlle. Oh, très joli. Un petit oiseau, forcément.
Oui.
Mais c'est pas surprenant. Bon, là, comme ça, non, je ne saurais pas te dire exactement. Je pense que c'est un petit... Est-ce que c'est un oiseau qu'on peut voir dans le Vercors ?
On peut le rencontrer. On le rencontre assez souvent dans nos jardins.
Est-ce que tu as des indices, Maëlle ?
On l'appelle souvent l'ami du jardinier.
C'est une mésange, non ?
Non, il est un peu plus... il a une caractéristique... il a une couleur assez caractéristique au niveau de la gorge.
Voilà.
Voilà. Bien joué, donc c'est le chant du rouge-gorge que nous entendions.
Et j'en vois quelques fois. Moi, j'ai un balcon qui donne sur des jardins et sur des arbres. Et quelquefois, sur le balcon, il y a une rambarde. Et quelquefois, ils viennent se poser là.
Oui, ils ne sont pas du tout farouches, ces oiseaux. Ils aiment bien la proximité de l'homme.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, sur le chant du rouge-gorge, ce qu'on peut en dire, c'est que mâles et femelles peuvent chanter, ce qui est assez rare chez les oiseaux. C'est souvent le mâle qui va chanter pendant les périodes de reproduction pour marquer son territoire. Mais chez le rouge-gorge, on a mâle et femelle. On peut l'entendre aussi là en hiver, quand il veut marquer son territoire, on l'entend chanter. Et il a une petite particularité, c'est que le rouge-gorge, en fait, il va avoir une mélodie qui va changer un tout petit peu en fonction des individus, parce qu'ils vont inclure en fait leur prénom dans le chant. Donc ils disent, je m'appelle Martin, moi je m'appelle Georges. Donc on a vraiment ces petits noms. Alors c'est très infime, moi je n'arrive pas à faire la différence entre Martin et Georges, mais apparemment c'est très très léger. Et on a aussi noté qu'en fonction des régions, les oiseaux, ils n'avaient pas le même chant, donc on dit qu'ils ont un accent. Donc en fonction du nord et du sud, ils n'ont pas vraiment le même chant. Donc c'est un peu comme nous, on a les accents chez les oiseaux aussi.
Ouais. D'accord. Là, justement, j'étais dehors assez tôt. La nuit, le jour n'était pas levé encore, et j'ai été très surpris d'entendre les oiseaux qui alors, le jour allait venir, c'était dans le quart d'heure ou la demi-heure qui venait, donc ça commençait à poindre un peu, et j'ai entendu des oiseaux chanter. Alors, je me suis dit, et pour moi, les oiseaux ne chantaient que l'été. Donc, non, apparemment, c'est même l'hiver, ça gazouille.
Voilà, ça peut chanter un petit peu. Donc, c'est surtout pour marquer leur territoire. Au printemps, ce sera plutôt pour attirer les femelles.
Ah, d'accord.
Donc, là, on a vraiment du marquage de territoire.
Donc, il y en a beaucoup. Il y a plus de chants d'oiseaux au printemps qu'actuellement.
Il y en aura plus au printemps. Là, on n'en a que quelques-uns qui chantent, mais on peut en entendre un petit peu, oui.
Bon, très bien. Merci beaucoup.
Merci, René.
Eh bien, bonne journée à tous et à
bonne
toutes.
Bonne journée. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Maëlle, de nous avoir rendu visite.
Eh bien, merci à vous. Merci à toi, Karina.
Avec plaisir. Merci à René pour tes histoires de l'univers. Merci à Gabi pour sa chronique. Et comme d'habitude, j'espère que cette émission vous a plu. Et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à m'écrire contact@radioblv.com. Et pour ceux qui sont friands d'informations locales, on se retrouve à midi et quart pour la locale. On aura notamment comme invité Laurence Charouin, qui anime des ateliers clowns, Régis Poncic, directeur de la mission locale de Valence, et Alénor Spielmann de La Roue, le tiers-lieu de Chabeuil. À la semaine prochaine.
Sors de l'intérieur, motive ton corps, anime ton âme, va voir le monde, bouge, va-t'en, va!
La radio dans le pédalo.
Ton seul contact avec l'extérieur en solitaire, c'est la radio, hein, bien entendu.
Avec Karina Kohan.
Je vous ai dit que j'étais désolée pour la tête de canard. Mais bon, je persiste à croire que ça nous aurait pris beaucoup plus de temps.
Ça ne prenait pas beaucoup plus de temps.
Sur Radio BLV.
Ce qui est difficile, c'est la partie pédalo, c'est pas la partie canard. La partie canard, c'est un bec, un col vert. Et puis bon, on n'en parle plus.